بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. شفران الإسلام الحمد لله. Nous reprenons donc sur le Takwir. La semaine dernière, on était un petit peu pris avec le programme des jeunes. Il y avait un programme à faire dans la ville de Saint-Louis sur les fitnas, les jeunes et le qiyam. Programme intéressant. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a facilité. Donc on était un peu pris. Pour ça qu'on n'avait pas fait vendredi dernier. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on essaie de rattraper avec pour objectif de compléter Ida Shamsu Kuwirat, Ida Shamsu Kuwirat avant les vacances, Inch'Allah. Éteins un petit peu les ventilateurs, non ? Il y a un peu beaucoup de ventilateurs quand même. Maximum. Donc les versets qu'on a vus, on vient de lire, Waïda Suhufu Nushirat. Donc on continue avec ces signes qui ont lieu le jour de Qiyam. Et quand les feuilles seront déployées, Waïda Suhufu Nushirat. Et quand les feuilles seront déployées. Quand on parle des feuilles, d'après vous, c'est en rapport avec quel genre de feuilles? As-suhuf, les feuillets des actions. Suhuf al-a'mal. Et quand on parle de feuillets ou de feuilles, peu importe la manière qu'on le décrit, les feuilles ou le livre dans lesquels les actions sont écrites, ça fait appel également à l'existence des anges qui sont là pour écrire l'intégralité des a'mal, des actions bonne comme mauvaise accomplie par l'être humain. Et là, subhanallah, les mufassirines expliquent que dans, à travers ce verset, « وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ » ce verset permet à l'être humain de faire la relation entre le présent et le futur, entre le présent et l'avenir, entre le présent et l'éternité. Là, en français, il y a combien de catégories de futur? Futur antérieur, futur simple, c'est sûr. D'accord, etc. Bon, il y a quelques catégories de futur, mais dans notre din, il y a un futur qui n'existe pas dans la conjugaison française. C'est le futur éternel. Il y a ça dans le bled ou dans le bécherel, le futur éternel. Anouar, pas vu ça, Maurice? Futur éternel. Futur éternel, c'est que dans notre din, ça. Et subhanallah, notre din nous permet de faire une relation entre les actions que je vais accomplir maintenant, les décisions que je vais prendre tout de suite, les paroles que je vais prononcer tout de suite, et le futur éternel. Alors que quand on est à l'école, quand on est étudiant, le professeur dit que voilà, si vous travaillez bien, vous aurez des diplômes, vous aurez un bon travail, ainsi de suite. Il vous apprend à faire la relation entre le présent et le futur proche, votre avenir, votre carrière. Mais dans notre dîne, on apprend, comme j'ai dit, c'est entre la relation entre les actions qu'on accomplit, filhal, le présent, les paroles qu'on va prononcer, ainsi de suite, les décisions qu'on va prendre, d'accord, et le futur éternel. Et ça, c'est extrêmement important, parce que cela permet à l'être humain de se resituer dans le temps et dans l'espace. Quand vous savez exactement où est-ce que vous allez, et jusqu'à où vous allez, et quel est l'objectif final, vous avez une ligne qui est tracée. Et quand vous avez une ligne qui est tracée avec un objectif, avec un aboutissement, avec les dangers, vous savez exactement où se situent les pièges, les dangers, subhanallah, vous avez la clairvoyance. Vous n'êtes pas comme ces âmes perdues qui, du jour au lendemain, ils ne savent pas quel est le but de leur vie, pourquoi ils sont là, ils ne comprennent pas le rôle de la société, ils sont à la recherche de leur identité. Bref, des gens qui sont complètement perdus. Et pour trouver une solution, une réponse à leurs questions, ils vont aller à travers la philosophie, ou ils vont essayer d'aller vers la méditation, ils vont essayer de trouver des racines, je ne sais où. Mais subhanallah, la vérité, le haqq, l'identité de l'homme, c'est quoi? C'est « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ مَعَ الْعِلْمِ » Sachant que « لِيَعْبُدُونَ » l'adoration d'Allah رَبُ الْعِزَّةِ, ses résultats, son natija, se verra le jour du Qiyam. Donc, je sais exactement. J'ai pas de questions à me poser, moi. Qu'il fasse beau, qu'il fasse clair, qu'il y ait un cyclone dehors, que que machallah, que mon PNB ou alors mon pouvoir d'achat est fort, ou qu'on traverse la crise et que l'euro ne veut plus rien, que j'ai un travail, que je sois au chômage, que les gens ils disent du bien de moi, que les gens me essaient de m'humilier. Voilà, aïchaï, quelle que soit la situation, le croyant n'est pas déstabilisé. Il laisse les choses venir, partir, ahwal. Il sait qu'il a un travail à faire. Bas. Que l'humanité entière est content, est satisfait, est applaudi, ça ne change à rien. Le plus important, c'est qu'Allah Rabbul Izzah est satisfait de toi. Le monde entier te traite d'idiot, d'imbécile, d'arriéré, tu pratiques la religion, tu fais n'importe quoi, ils se moquent de toi. Du moment qu'Allah est satisfait de toi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai un chemin qui est tracé, j'ai un travail à faire. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. J'ai un objectif, j'ai un travail à faire, j'ai mon créateur qui attend que je passe ces années-là dans l'adoration, dans son adoration. Et si je le fais, il sera content, il sera satisfait de moi et il m'accordera les plus hauts degrés. Ça, c'est extrêmement important. Et cette clairvoyance, on peut l'acquérir à travers la pratique de la religion, mais à travers une pratique éclairée de l'din. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui font... Ils font, alhamdoulilah, Allah les accorde tawfiq de venir à masjid, de prier, de jeûner, de lire le Coran, mais ils n'arrivent pas à faire la relation entre le présent et le futur. Ils font pas la relation entre le présent et l'au-delà. Ils font pas la relation entre ce monde et l'au-delà. Entre les décisions qu'on prend maintenant et leurs conséquences dans l'autre monde. Ce qui fait que, parfois, ils vont être, mashallah, conformes aux ordres d'Allah dans certains points de la religion. Et quand ce sont des points qui ne l'arrangent pas, qui ne les arrangent pas, ben, il va aller à l'encontre des ordres d'Allah. Ça veut dire que la personne n'a pas vraiment réalisé que mes actions, quand je les accomplis, hein, l'objectif c'est qu'Allah soit satisfait de moi et que je retrouve ces a'mal le jour de Qiyam. Et si c'était de bonnes actions, ils seront pour moi, dans la balance pour moi. Si c'est des péchés, ils seront contre moi. Ça c'est un homme intelligent. Et quand on a réalisé cette relation entre ce dunya et l'au-delà, cette relation entre le présent et le futur éternel, là on devient un croyant clairvoyant. Clairvoyant parce que lorsqu'il va faire de bonnes actions, il sera sincère. Il ne va pas perdre son temps à faire des actions pour faire voir aux gens, ou pour montrer quoi que ce soit. Parce qu'il sait que l'action-là, je l'accomplis pour Allah. Parce que j'ai besoin de le retrouver auprès d'Allah le jour de Qiyam, cette action. Donc quand il agit, quand il fait une bonne œuvre, c'est toujours avec ikhlas, avec sincérité. Et quand il est face à un péché ou un fitna, ou un choix, un carrefour de sa vie entre le bien et le mal, il n'ira jamais vers le mal. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il prend la mauvaise direction, le jour de Qiyama, Allah Rabbul Izza sera mécontent de lui, il aura des comptes à rendre sur ce péché. Même si ce péché-là peut lui donner un sacré, peut lui apporter un sacré, une sacrée aide ou un sacré coup de main. Par exemple, je donne un exemple, hein, d'une transaction illicite. Une transaction basée sur l'intérêt, l'illicite. D'accord ? Il sait que du jour au lendemain, sa banque peut lui débloquer 50 000 euros. Et pourtant, il fait sa salat, il jeûne, il fait les bonnes œuvres, mashallah, il lit le Coran, peut-être qu'il le connaît même pas, okay, Allahu a'lam, il est, alhamdulillah, ce qu'on peut appeler un musulman modèle. Mais modèle pour qui ? Modèle pour ceux qui vous entourent. Mais est-ce qu'on est un musulman modèle pour Allah ? C'est ça la question. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se suffire de l'impression que je dégage et l'impression que j'ai par rapport aux autres. Il ne faut pas que je dise que ah, lui, il fait ci, il fait ça, il fait telle bêtise. Donc moi, je suis beaucoup mieux. Ne te compare pas aux gens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne nous a jamais demandé de nous comparer à vos frères. Il nous a demandé de nous comparer, de prendre comme exemple ses sahabas, ses compagnons. Quand on va réaliser que nous devons vivre comme les sahabas, leur mode de vie, leur mentalité, leur approche de ibadah, là on va réellement comprendre le chemin qui reste à parcourir. Qu'est-ce qu'on disait là ? Un petit peu de fatigue ce soir là. Je disais que, subhanallah, on était en train de parler de la relation. C'était un point très important, ça. Le futur. Non, mais là j'ai dévié vers les sahabas. On dit que oui, cet homme qui a la clairvoyance, qui a compris la relation entre le présent et le futur éternel, entre ce monde et l'au-delà, cette personne-là, subhanallah, face aux bonnes œuvres, il sera le premier. Et ces bonnes œuvres, il le fera avec sincérité. Et par rapport au péché, il s'en éloignera, même si le péché peut lui apporter quelque chose. Donc on a cité ce musulman qui, en guillemets, il se prétend être un musulman modèle, Mais quand il a un peu de dette, ou il a besoin de quelque chose, ça, il voit que la banque lui propose un prêt avec un taux d'intérêt intéressant, et tous les taux d'intérêt mènent vers le Jahannam. Donc, ils sont intéressants ou non, c'est un taux d'intérêt qui mène vers l'enfer. Et donc, malheureusement, il va le signer, il va accepter. Alors que, Yahri, tu viens de prier la salat en congrégation de Jama'a, et tu vas mettre la main dans le riba, qui fait partie des kaba'ir, na'oudhu billah. Et qu'est-ce qui fait que cet homme le fera? C'est parce que il n'y a pas de méchanceté en lui. C'est pas qu'il veut s'opposer, qu'il veut montrer à Allah qu'il est na'oudhu billah abadan. C'est qu'il n'a pas compris. C'est pas par jahil non plus, non. C'est pas qu'il est ignorant. C'est pas qu'il est jahil. C'est pas qu'il ne sait pas que ça c'est haram, ça c'est l'intérêt, c'est pas bien, non. C'est parce que dans sa tête, là les bonnes œuvres, c'est comme lui il l'a compris. C'est comme lui il l'intègre. Pour lui, ça c'est bien, mais ça, l'intérêt c'est pas grave, ça. De toute façon, je vais rembourser. Ou alors, dans les relations avec une jeune fille ou une jeune femme et tout, il va se dire que, mais, et alors? Allez, même si je fais la bise à cette personne, c'est pas grave ça. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas humilié, j'ai un bon comportement. Moi, je ne fais pas honte à ma communauté, je ne fais pas tel geste qui va jeter, hein, vous savez, bref, des trucs qui risquent de porter atteinte à la communauté. Moi, je suis quelqu'un de bien, je donne une bonne image de la religion. Alors, ne venez pas m'embêter, ne me dites pas que si je fais la bise à cette fille, je suis en train de faire un péché. C'est pas vrai. Je n'ai pas fait de mal, je n'ai pas fait de tort. Le gros problème. Il n'a pas réalisé que le tashri', c'est pas de lui ça. Le tashri', la manière de faire la sharia, le fait de décréter ce qui est halal et ce qui est haram, c'est pas en fonction de ce que tu conçois, c'est pas en fonction de ce que toi tu penses que c'est bien, de ce que tu penses que c'est pas bien. C'est Allah Rabbul Izzah qui fixe les règles. Ça c'est sa religion. Inna dina indallah l'islam. C'est la religion qui est agréée par Allah et c'est Allah qui fixe les règles. Donc tout ça pour vous dire, pour nous rappeler que en lisant ce verset, qui n'est pas un verset exceptionnel, je veux dire, ce n'est pas un grand verset où il y a, subhanallah, 10-15 masa'il, ou 10-15 règles de tafsir qu'on peut extraire. « Wa idha suhufu nushirat » lorsque, non, pour, et comment ils ont traduit, « et quand les feuilles seront déployées ». Uniquement en lisant ce verset, en réalisant qu'il y a chaque être humain avec lui son suhuf, son livret de bonnes œuvres, son livret d'action, pardon. Son livret d'action, dans lequel il y a les bonnes et les mauvaises actions. Et là, on prend conscience que le jour de Qiyama, ces suhuf, ces livrets seront nushirat, seront déployés, seront ouverts. Et le fait de réaliser ça, ça vous permet de comprendre que tout ce qu'on accomplit maintenant de ce dunya, de le présent, il y aura une relation directe avec l'au-delà, avec le futur qu'on avait dit éternel. Et ça, c'est important. Dans la construction de sa personnalité et dans la direction qu'on donne à ses choix, à sa vie d'une manière générale. Si à chaque fois que vous avez un choix à faire, vous faites immédiatement la relation entre ce que je vais décider et la manière que je serai ressuscité, la manière que je vais recevoir la visite de l'ange de la mort, la manière que je serai dans la tombe, la manière que je serai ressuscité, que je vais recevoir mon livret de compte, que je vais me présenter devant la balance, puis devant le tribunal d'Allah. Si à chaque fois que j'ai un choix, je prends conscience que par rapport à ce choix, il y a une influence sur ces 6-7 étapes qu'on vient de citer, assurément ce croyant, il fera toujours les bons choix, Inch'Allah. Ça, c'est important. Ça, c'est plus important parfois que d'apprendre des masa'il, des règles de jurisprudence dans un bab, dans un chapitre du fiqh. Hein, c'est toujours du ilm. Mais ça, c'est des trucs basiques. Ça, c'est comme si qu'on fixe les bases, les règles de ma vie. Après, plus on connaît de masa'il ou d'autres règles, c'est bien. Mais si on n'a pas réalisé pourquoi on est là et quelle est la relation entre ce monde et le delà, entre le présent et le futur, on aura du mal à comprendre le sens du dîn, le sens de la religion. Et on aura du mal à rester ferme dans les bonnes œuvres et à rester ferme dans l'éloignement des péchés. Et également, et ça c'est le point le plus difficile qui se transforme souvent en fitna, on n'arrivera pas à comprendre la relation entre les épreuves et les récompenses auprès d'Allah. Imaginez ce croyant qui, mashallah, est dans la pratique assidue de la religion, fait pas de péché, il est vraiment sérieux, mashallah. Son voisin, il est pas sérieux, il fait pas la prière, il fait des choses haram, il voit ce qui se passe, qui rentre, qui sort de sa personne. Et son voisin, il est en bonne santé, tout va bien, il n'a aucun problème dans sa vie. Alors que ce croyant-là, alhamdoulilah, il est dans la religion, mais il lui arrive toujours des problèmes. Il a toujours des épreuves, des difficultés. Et si il n'a pas réalisé tout ce qu'on vient de dire là, n'a pas compris la relation entre ce monde et l'au-delà, entre le présent et le futur entier, que tout vient de la part d'Allah, cette personne peut se dire na'oudou billah, et ça ce sera la limite du kufr. Ça sert à quoi d'adorer Allah? Astaghfirullah wa atoubu ilayh. Ça sert à quoi de ne pas faire de péché? Mon voisin, il boit, il fume, il fait le zina tout le temps. Il y a des filles, des femmes qui rentrent, qui sortent. Il vient jamais à la mosquée si c'est le salat al-jum'a et machin. Et il est bien, il est respecté de tout le monde, il est en bonne santé, il n'a rien. Moi, j'ai des problèmes, mes enfants sont malades, j'ai tel souci. Alors que je suis toujours là au premier rang et je suis toujours éloigné des péchés. C'est-à-dire que la personne ne saura pas, ne réalisera pas que ça ne s'appelle pas des malheurs, ça. Ça ne s'appelle pas des calamités, c'est pas de la malchance. Ça, ce sont des... Quel est le mot en arabe? Ibtila, barakallah fi. Ça, ce sont des ibtila min Allah, des épreuves. Des épreuves qui viennent de la part d'Allah. Et c'est un bon signe. C'est un bon signe, il y a un hadith. Je sais pas si le hadith me revient. Quand Allah, Azza wa Jal, aime quelqu'un, Allah l'éprouve. Un hadith qui va de ce sens. Et dans un autre hadith un peu plus connu, dans lequel il est rappelé que ça va à l'encontre de la logique humaine. Ashaddu an-nasi bala'an, les gens les plus éprouvés. On va dire que les gens les éprouvés, selon la logique humaine, si tout va bien, si on aime quelqu'un, on va pas lui faire du mal, entre guillemets. On va pas lui causer des préjudices. Mais pour Allah Rabbul Izzah, c'est pas comme ça que ça marche. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Thumma al-amthal fal-amthal. Ensuite, ceux qui ont le plus haut degré de iman. فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِ. Chaque personne sera éprouvée en fonction de son iman, de son dîn. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَ زِيدَ فِي بَلَائِ. Quand Allah voit que cette personne a une foi qui est ferme, il y aura encore plus d'épreuves. Les épreuves, c'est un signe qu'Allah nous aime, mes chers frères. Et ce croyant qui n'a pas compris ça, en fait, il n'a pas vraiment compris le sens du ibad. Il n'a pas compris quelle est ma relation avec Allah. Et comment est-ce qu'Allah agit envers ses serviteurs? Il a calqué la relation entre le serviteur et le créateur comme une relation entre créatures. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu aimes ton fils, tu ne vas pas lui mettre des problèmes, oui ou non? Non, tu vas faire en sorte que tout va bien, il est heureux, il a tout ce qu'il faut. D'accord? Alors qu'Allah, il agit différemment. Quand il aime un serviteur, il va l'éprouver pour voir sa réaction. Pourquoi est-ce qu'Allah Rabbul Izzah demande à Ibrahim alayhi salam de sacrifier, d'abandonner avant tout sa femme en plein désert? C'est quelque chose de facile, ça? C'est compliqué. C'est une épreuve compliquée. Qui aurait pu supporter ça par Ibrahim alayhi salam? Anwar? Ibrahim ici là? Isa? Abdullah? Abadan? Sharif? Abadan? On n'a pas ce niveau. Personne n'a ce niveau. Mais Ibrahim alayhi salam, il avait iman ajib, lui. Khalilullah, l'ami intime d'Allah, savait quel était son degré de iman et que ça n'allait pas le détourner. Ça ne se transformerait pas en fitna pour lui. Pardonne son madame. Avec le petit bébé, j'ai oublié de préciser, le plus important, le bébé qu'il a eu, selon certaines sources, il avait 81 voire 82 ans. Quand l'enfant grandit, l'enfant atteint un âge où il peut aider son papa. Et les savants, l'ulama tarbiya, dit il n'y a rien de plus plaisant, de plus réconfortant pour un papa que de voir son fils qui commence à l'aider. Oui ou non? Ça procure la joie de le cœur. L'enfant, Allah Akbar, lui a donné la tarbiya, il arrive à un certain âge où il peut aider son père à porter les courses, il fait des trucs. Il te soulage, il dit non papa, je vais acheter le pain, c'est moi qui ai fait l'école. Allah Akbar, qu'est-ce qu'on ressent comme contentement, comme joie de le cœur? On remercie Allah directement. Et à ce moment où son fils devient un soutien pour son père qui maintenant est âgé, Allah Rabbul Izzah dit que maintenant tu vas sacrifier ton fils. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelle épreuve, bien, mes frères. Pourquoi est-ce qu'Allah l'éprouve? Alors qu'il est Khalilullah. C'est paradoxal, ça. L'ami intime d'Allah, et Allah lui envoie des épreuves que, subhanallah, si on analyse la vie des autres anbiya, à part notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si aucun autre prophète n'a eu des épreuves aussi lourdes dans une période aussi réduite. Alhamdulillah, Akbar, Ibrahim alayhi salam, il a énormément d'ibtila de la part d'Allah, Rabbul Izzah. C'est parce qu'Allah ta'ala aimait Ibrahim. Et comme Allah aimait Ibrahim alayhi salam, l'a éprouvé, et Allah savait quelle aurait été la réaction d'Ibrahim alayhi salam. Et à travers l'épreuve, Allah attend du croyant qu'il reste ferme, qu'il garde husnul dhanni billah. Husnul dhanni billah, c'est, en français on ne trouve pas vraiment de traduction, c'est une pensée positive de notre Seigneur. Être toujours persuadé qu'Allah est au-dessus de nous, Allah est clément, il est miséricordieux, il est hakim adl, il est juste, il est sage, tout ce qui vient, ça vient de lui. Ce qui arrive, il y a bien dedans. Même si pour moi, ça allait d'être catastrophique, alhamdulillah, ala kulli hal. Radina billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiyya wa rasoula. On accepte tout ce qu'Allah a décrété. Et je suis patient. Allah attend de moi la patience. Allahu Akbar. Allahumma, accordez-moi tawfiq de répondre présent dans l'épreuve et accordez-moi les darajat. Et les darajat, c'est quoi? Les hauts degrés de le Jannah. L'expiation des fautes. Et Allah accorde des récompenses. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait enseigné un dua magnifique. Lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'il y a une difficulté, Allahumma ajirna fi musibati wa khalfna khayran minhu. Oh Allah, ajirna. Oh Allah, accorde-moi des récompenses. Si je me trompe dans le dua, quelqu'un me rectifie. Hein. Accorde-moi des récompenses de cette épreuve et, oh Allah, accorde-moi quelque chose de mieux, c'est-à-dire en compensation. Si je perds quelque chose, oh Allah, accorde-moi quelque chose de mieux. Bref, on ne va pas entrer dans un autre sujet, ce n'est pas le but. Mais ce croyant qui n'a pas la clairvoyance de le choix entre le bien et le mal, il ne va pas toujours choisir le bien, même s'il a l'apparence d'un homme pieux. Dans les épreuves, et c'est là, et face au péché, il y a des fois où il sera ferme, il y a des fois où il va baisser les bras parce qu'il a quelque chose à gagner. Il n'a pas compris qu'un musulman ne peut pas rester une seconde dans la désobéissance envers Allah. Une seconde, tu ne peux pas désobéir à Allah. Ce n'est pas possible. Inimaginable qu'Allah te voit une seconde en train de désobéir. Ça doit être quelque chose d'inacceptable pour un homme, pour un croyant. Et face aux épreuves, s'il n'a pas compris qu'est-ce qu'Allah attend de moi, pourquoi Allah envoie des épreuves, la personne peut faire kufr, peut renier tout. Il dit, ça sert à rien de faire l'adoration, ça sert à rien de faire ça, parce que regarde tous les problèmes que j'ai. Au contraire, plus je fais des bonnes œuvres, j'ai des problèmes. Na'oud billah. Alors, la personne vient de passer à côté d'une occasion en or pour avoir les plus hauts degrés auprès d'Allah. Certains savants disent que chaque être humain a un manzila auprès d'Allah, et pour certaines personnes, Allah envoie des épreuves. Parce qu'Allah sait que cet homme, ce croyant, ne pourra jamais atteindre de haut degré avec ses ibadahs. Il est trop faible. Trop faible pour faire qiyam ul-layl tous les soirs. Trop faible pour jeûner lundi, jeudi. Ne souriez pas. Pour jeûner lundi, jeudi. Pour jeûner 13, 14, 15. Trop faible pour être, mashallah, au premier rang, takbir oula, sans jamais rater un takbir oula de sa vie. Trop faible. Donc Allah va envoyer des épreuves parce qu'Allah veut du bien pour l'homme. Allah veut l'élever. Et par les actes d'adoration, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est comme si vous avez une voiture avec un tank de 95 litres et vous mettez juste 10 litres. Vous n'allez pas aller loin comme ça. Donc Allah, exemple, il trouvera d'autres solutions pour vous ramener vers lui. Et le meilleur des moyens, c'est Ibtila, à condition qu'on comprenne le sens d'Ibtila. Tout est une question de compréhension. C'est pas vrai ça quand il y en a qui dit que dans la religion là, on pratique, pas question, fait. Mais comme ça, on met en pratique. C'est pas vrai. Oui, tu pratiques. Mais si tu n'as pas compris toute la hikmah, j'aime pas utiliser la philosophie, j'aime plutôt la hikmah. Si tu n'as pas compris toute la sagesse qu'il y a dans toutes les facettes de la religion, tu n'auras pas une relation amoureuse avec ton din. Tu n'auras pas une relation intime de cœur avec ta religion. Tu vas pratiquer comme ça, comme un fardeau. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. L'obligé. L'est pas bon. Va gagner le coup de bois là-haut, va gagner le choc et tout, parce que l'a dit que gay azab, n'a le feu et tout. Faut pas. N'est pas bon, on l'a dit, il ne faut pas. Tu n'as pas compris vraiment quelle est l'importance, où est l'amour d'Allah dans l'abandon d'un haram. Quand tu abandonnes un haram, dis Allah Akbar. Oh Allah, je t'aime trop pour faire quelque chose qui va te déplaire. Faites-le, dites-le. Je ne dis pas qu'on a haram. Hein. Même un truc bête, un truc basique. Vous êtes dans un magasin, une grande surface, vous l'achetez un truc à manger, vous retenez le paquet, composition, il y a graisse animale, ou il y a, comment on appelle ça, gélatine, ou des trucs qui ne sont pas bons, mais vous avez envie de manger. Et puis tu dis, j'ai envie, mon naf me dit, mangez. Le biscuit, il te regarde, il te dit, mangez-moi. Mais tu sais que ce n'est pas bon. Tu dis, oh Allah, je t'aime tellement, j'ai tellement d'amour pour toi, j'ai tellement d'amour pour toi, mon cœur est tellement rempli d'amour pour toi, jamais je pourrais te désobéir avec une futilité, tu abandonnes. Allah, tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens de faire comme bon action, ya akhi. Tu ne sais pas ce que c'est par cette action même qu'Allah t'accorde le firdaus. Petit geste. Il faut remettre l'amour d'Allah dans notre vie. Qu'Allah nous tawfiq en premier de le mettre en pratique. Tout ça, c'est des cadrages. Après le reste, là, hein, trace le chemin, mon frère. Tout ça, c'est des cadrages. Bien comprendre, quand tu fais de bonnes œuvres, hein, fais-le par amour pour Allah. Quand tu abandonnes un haram, abandonne-le par amour pour Allah. Et après, ensuite, essaie de mixer l'amour pour Allah et la crainte d'Allah. Al-khawf wa al-raja. Ces deux-là, c'est important. Pour ne pas tomber dans des excès non plus. D'accord ? Je ne fais pas ça parce que j'aime trop Allah, je ne peux pas désobéir à Allah de la sorte. Je ne peux pas faire en sorte que quand je fais ça, cette fille, elle est belle, une jolie fille, elle habite dans mon quartier et tout, elle est magnifique, elle fait des petits clins d'œil tous les jours. Et elle m'a dit, allons boire quelque chose, là, boire un café, allons machin et tout. J'ai très envie. Et j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai plein d'énergie, plein de testostérone et plein de trucs, tout ça. Ou alors, c'est pas ça, c'est le latin. Le code biologie, c'est un peu loin. Voilà. Mais je me dis que là, je vais sortir avec cette fille, je vais attraper sa main, je vais être près d'elle. Mes anges, là, ils travaillent. Hein? Ou la suhuf ou nushirat. On a dit tout à l'heure, qui dit suhuf dit malak, oui ou non? Qui dit suhuf, qui dit livré d'action, dit des anges qui sont là pour écrire les péchés. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ils sont toujours là. C'est comme des surveillants, des vigiles sont là. Dit ben là, pendant ce temps-là, ils vont écrire que samedi, de 14h à 17h, un tel foulan était dans le haram avec une personne. Mais quand les anges du soir, ils prennent les akhbar et ils amènent auprès d'Allah. On avait vu déjà dans le passé les groupes d'anges du matin, les groupes d'anges du soir. Et Allah, il connaît mieux, il n'a pas besoin d'eux, mais Allah a organisé le dunya de la sorte. Ils vont ramener cette nouvelle auprès d'Allah que Ibrahim ou Ishaq ou Abdallah étaient dans le haram de telle heure à telle heure. Comment est-ce que je peux accepter ça? Comment est-ce que je peux délibérément désobéir à Allah et faire en sorte qu'Allah me voie de le haram? Ça, si on aborde le péché de la sorte, le péché ne sera pas écarté par frustration. On ne ressentira pas la frustration de notre cœur. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui disent « Ouais, mais chez vous, les Arabes, je suis musulman, ben vous faites quoi? Vous vous amusez comment? Vous buvez pas? Vous ne dansez pas? Vous ne forniquez pas, excusez-moi, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne vous shootez pas, mais c'est quoi la vie alors? Vous vous amusez comment? Vous allez à la mosquée, vous faites les ablutions, c'est ça? Ils ne comprennent pas, parce que eux, le dunya, c'est sijn. C'est jannah, pardon, excusez-moi. Le dunya, c'est jannah tout l'il-kafir, c'est le paradis, ça. Ils ne comprennent pas, ils croient que nous vivons une vie de frustration. Nous vivons une vie, nous sommes malheureux, nous sommes comme des gens qui sont blessés intérieurement, on ne peut rien faire, on est révolté intérieurement, mais on n'ose pas le dire. Ils ne savent pas que, subhanallah, quand on délaisse le haram, c'est un plaisir, on délaisse ça pour Allah, il y a l'adha, il y a halawat l'iman dedans. Il y a la douceur de la foi quand tu délaisses une action pour Allah. Oui, non. On n'avait pas déjà vu ça dans le passé? Que celui qui abandonne une... le hadith me revient. Allahu Akbar, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui abandonne quelque chose par Allah, Allah lui accorde quelque chose de mieux. Et les muhaddithines disent, Allah il t'accorde halawatul iman, la douceur de la foi. Quand tu fais les bonnes œuvres, Allahu Akbar, ce que tu ressens, le monde entier ne te comprend pas. Ce que tu ressens dans la sijda, le monde entier ne te comprend pas. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu es en train de faire, quelle jouissance spirituelle tu es en train d'obtenir dans ce sijda. Même tes frères à côté de toi, ils ne te comprennent pas. Parce qu'Allah t'a accordé ce qu'il ne les a pas accordé. Parce que tu as délaissé le haram pour Allah, Rabbul Izzah. Chers frères, il faut apprendre à recadrer notre relation avec Allah dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans l'éloignement du haram, dans la patience face aux, face aux épreuves. Et bien réaliser la relation qu'il y a entre le présent et le futur. Bien réaliser que le choix que je vais faire, la parole que je vais prononcer, le geste que je vais faire, même dans le hadith qui dit que chaque pas, j'ai plus les sources du hadith, c'est pas écrit là, dit dans le hadith que chaque pas que l'être humain accomplit, le pas est enregistré dans les livrets de compte, et le jour des qiyamah, on demandera à la personne à propos de ce pas, quel était l'objectif, quel était le but. C'était un pas vers une bonne action, ou un pas vers un péché, ou alors c'était quelque chose de neutre. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dit que même quand, ça on l'a déjà dit au moins deux ou trois fois, quand une personne est malade, il se plaint. On appelle ça en arabe at-tawajju'a. Il crie, ah, ou comment, je sais pas comment vous plaignez, vous, d'accord? Et il dit que même ce son-là, c'est écrit par les anges. Parce que les anges ont l'ordre d'écrire tout ce qui sort de la bouche de l'être humain. Si c'est de bonnes œuvres, si c'est une bonne parole, alhamdulillah, sera source de récompense. Si c'est des mauvaises paroles, sera source de péché, d'affliction. Et si c'est des paroles neutres, ils seront effacés, ils n'auront plus d'importance au jour de Qiyam. On réalise que, subhanallah, les malaïkas sont là, ils écrivent. Donc, à travers le verset, on réalise que les anges sont là, ils écrivent. Et que tout est emmagasiné dans des livrets d'action. Et que quand on meurt, les livrets sont pliés. Et personne ne touche plus au livret. Quand l'homme meurt, le livret d'action, le compte est bloqué, gelé. Personne ne rajoute ou n'enlève. Sauf Il y a quelques actions qui peuvent encore être profitables aux croyants, c'est ce ne sera pas tout. Un enfant pieux, par exemple, yad'u là. Vous avez laissé un enfant pieux qui fait de bonnes œuvres, qui invoque Allah pour son père, ça sera profitable. Allahu Akbar. On doit bien réaliser que qu'est-ce que je veux de mon enfant? Est-ce que je veux que mon enfant, là on sort encore, hein, est-ce que je veux que mon enfant devienne un grand avocat, un grand médecin, qui va toucher 6000 euros par mois, qui aura une villa, piscine, d'aller au brûlé, et que tout le monde va parler, dire, ah lui c'est le fils d'un tel, il a réussi, il a fait médecine, il est spécialiste, il est devenu pneumologue, il est devenu allergologue, il est devenu je sais pas, cancérologue, je sais pas quoi, tout le monde est content et fier du parcours de votre fils. Il est bien lui! Il a été diplômé de telle école, mais il a abandonné complètement la salat. Il ne fait pas une prière, il ne fait rien. Il vient juste salatul jum'ah officiellement. Il vient mois de Ramadan, baisse. Mais ce fils-là qui fait ta fierté pour l'instant, d'accord? Déjà, il n'a pas été dit qu'à la fin du mois, il s'adresse aux 2000 euros. Hein, il n'a pas été dit, c'est pas sûr. Il a dit que j'ai mes loyers, j'ai mon machin, les impôts et tout. Peut-être qu'il oublie le papa aussi peu à peu. Peut-être qu'il te trouvera une bonne place. Des collègues à lui, qui trouvent une bonne place dans un bon hospice. Ah, ça, par contre, il va le faire. Dans l'hôpital de vieux, un mouroir, un endroit où on meurt. Il va te laisser mourir tranquillement, il ne va pas t'embêter. Ça, il sera gentil. Il ne va pas te manquer de respect parce qu'il ne te verra pas. Na'ouz billah. Et ce n'est pas lui qui va faire des bonnes œuvres qui te sont profitables dans la tombe. Non, c'est ton fils que tu as donné l'éducation, tu as donné l'amour et la tarbiya islamiya et qu'il devient un enfant pieux. Et ces bonnes œuvres te seront profitables alors que tu es mort, tu es enterré sous terre. Subhanallah. Donc, prendre conscience que quand je meurs, les livrets sont fermés et que le jour de Qiyama, wa idha as-suhufu nushirat. Ça fait partie des actions qui se déroulent le jour de Qiyama. Les livrets sont ouverts, accessibles. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la traduction, mais les livrets lui seront tirés, présentés le jour de Qiyama, et les livrets seront ouverts. Et qu'est-ce qu'on lui demandera? Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Dans hasiba, on retrouve hisab, même racine, oui, non? Hasiba, on retrouve hisab, c'est-à-dire les comptes. Et là, c'est toi ton propre juge. Dire que Allah Rabbul Izzah te donne ton livret de compte. Là, il y a la page 1, c'est quand tu étais baligh. 15 mars 1981. La dernière page, tu es mort le 21 janvier 2047. Tout ça, c'est ta vie. Kitab an yalqahu manshura. Et là, il voit 1995, 1996, 2000, 2001. En 2001, le lundi 2 février à 14h01, en sortant de la masjid, j'ai regardé une femme qui traversait. J'ai regardé avec passion. J'avais 19 ans, mais c'est écrit. Yahri, si tu le vois écrit, c'est que c'est grave. C'est que tu n'as pas pu demander pardon à Allah de le dunya. Alors qu'Allah t'a donné tellement d'occasions pour lui demander pardon, tellement de a'mal, d'actions qui peuvent être mukaffirat, pardonner les péchés, effacer les péchés. Si ce péché est toujours là, c'est que tu n'as pas fait l'effort qu'il fallait pour demander pardon à Allah. Et là, c'est grave. Donc, prendre conscience que le jour des comptes, ce livre sera manchoura et Allah te dira « Iqra kitabak, lis ton livre. » C'est toi qui es le propre juge, c'est toi qui vois, c'est toi qui es ton propre comptable, ton propre juge, c'est toi qui vois qu'est-ce que tu as fait comme bonnes œuvres. Il n'y a personne qui va dire, pour pas que quelqu'un pense qu'on a mal jugé, c'est pas vrai ce qui est écrit, et l'homme reconnaîtra l'intégralité de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a dit, des décisions qu'il a prises. On doit se rappeler de ce verset à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un. Il y a tellement d'injustices dans ce dunya, tellement de choses qui ne sont pas justes, mais le fait de penser que le jour de Qiyama il y a une justice là-haut, ça réconforte. Parfois, vous voyez des choses qui se passent, qui ne doivent pas se passer de la sorte. D'accord? Vous dites que ce n'est pas normal. Et quand vous voyez les hommes qui jugent, le jugement est mauvais. Le jugement n'est pas juste. À un moment donné, là, bat toute tête contre le mur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Essaye de trouver justice, essaye de interpeller un tel, mais ça c'est pas bien, pourquoi, au nom de quoi, donnez-moi une raison, c'était pas juste. Vous pouvez dire, ah non, c'est comme ça. mais sache qu'il y a un retour auprès d'Allah et le jour de Qiyama, il y aura l'adl, il y aura la justice de la part d'Allah Azza wa Jal. Et on complète, on en est à combien de minutes là? 34, on voulait faire un petit peu plus court ce soir pour pas pénaliser ceux qui font le masjid. Également les paroles, mes chers frères, on terminera avec ça, qu'on fasse bien attention à ce qu'on dit. Dans un hadith, le Prophète dit « Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni » Ça fait partie des qualités du croyant, des qualités de celui hein, qui a l'islam comme din, que de délaisser ce qui ne le concerne pas. Quand il y a quelque chose qui vous ne concerne pas, ne parle pas, ne rentre pas dans le sujet. Parce que si tu rentres dedans, assurément tu vas commencer à faire riba, bohtan, namima, qila wa qal. Ces quatre fléaux-là, très souvent on les retrouve dans une conversation de plus de 10 minutes. Au début ça va. Ça va, on s'échauffe, petit toit de terrain, étirement. Après, on va de le lourd. Bohtan, riba, médisance. Bohtan, calomnie, qila wa qal, colporté. Un tel l'a dit, il paraît que l'a dit, il a fait. Qila wa qal, l'a dit, il a fait. C'est traduction créole. Et namima, colporté, dans le but de semer la zizanie entre les gens. Ça, wallah, musta'an. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui ne vous concerne pas directement, khalli. C'est pas ton voisin qui dit ça, c'est pas moi. On va parler d'autre chose, pas ça. Également, le Prophète dit, « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakun khairan » ou « Que la personne qui croit en Allah et au jour du jugement, que la personne dise du bien ou alors que la personne se taise. » Boucle-la, ya akhi, gaffil, ferme ça. Si vous voulez acheter un tube silicone, cher, va te mettre pour. Assez, arrête de parler, parle pas beaucoup, arrête de dire n'importe quoi. Soit on dit quelque chose de bien, soit on reste silencieux et ce sera tout à fait profitable pour nous. Et on pourrait même rajouter, de nos jours, par analogie, hein, de nos jours, et on peut faire du mal également. Il y a des gens qui font du mal en parlant, il y a des gens qui font du mal avec le geste, il y a des gens qui font du mal en écrivant aussi. Avec tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, les groupes de WhatsApp, on s'échange des infos, des calomnies, des ribas qui va de groupe en groupe, de mur en mur. On comment ils appellent ça? Subhanallah. Dans Facebook, soit vous aimez, soit vous commentez, soit vous... Comment appelle le bouton là? Bref, les spécialistes. Hein, vous faites passer l'info sur votre mur, sur un mur, vous transmettez, ainsi de suite. Bref, d'accord? Même si vous savez pas, tant mieux, alhamdulillah, vous êtes à l'al-fitra. Bref, même ça, c'est des péchés. Si vous écrivez n'importe quoi, vous accusez quelqu'un, vous écrivez des choses qui sont pas bien. Et là, on voit toujours souvent les petits pseudo-musulmans, les pseudo-savants. Les pseudo-savants, des petits jeunes qui ne connaissent pas grand-chose, qui se permettent d'écrire des fatwas contre Cheikh Foulan, il est bid'a, lui il est garé, lui un tel a dit que c'est takfir, lui c'est... Ya akhi, va prendre al-Fatiha ou al-Fil, va prendre al-Tabarak al-Ladhi Yassin, al-Kahf, après tu viendras parler. Des petits jeunes qui commencent à donner les fatwas, lui c'est... Na'oudu billah. Bref, même ça aussi, il y a hisab dessus. Bref, le musulman il se contrôle, tout ce qu'il fait il se contrôle. Et où est-ce que, dites-moi, et on terminera, si vous avez la réponse, on arrête, mashallah. Dans quelle action on apprend à se contrôler entièrement? Le jeûne, oui, plus fort, plus intense, quelque chose de plus parlant encore que le jeûne. Dans quelle action tu contrôles tes paroles, tu contrôles ton regard, tu contrôles ton gestuel, tu contrôles tes oreilles, tu contrôles ta pensée? C'est quelle action? As-salah! Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dans la salat, tu regardes par terre. Dans la salat, tu n'écoutes pas d'autres choses. Dans la salat, tu dis pas d'autres mots que les paroles de la salat. Dans la salat, tu fais pas n'importe quoi. Tu bouges pas, tu fais pas des trucs stupides. Dans la salat, tu contrôles tes pensées. C'est la meilleure tarbiya. La salat, c'est la meilleure tarbiya. Et d'autant plus, une salat est accomplie avec concentration. Allahu Akbar. Ça, c'est la meilleure des choses. Et, en conclusion, j'étais chez un kiné, une fois un kiné, qui est un peu bizarre, hein, mais bon, kiné qui traite d'un truc psychologie et tout, bon, voilà, a fait un essai. Il vous ramène beaucoup, ben, les douleurs et tout, c'est une question psychologique, ramener la pensée et tout, bref, bon, ça marche, certains, ça marche pas. Il a dit une chose qui est magnifique, qui est vraiment bien, et qui m'a fait réaliser que, subhanallah, de notre salah, il y a vraiment quelque chose d'énorme. Il m'a dit, monsieur Mula, là, en ce moment, vous êtes avec moi, à quoi vous pensez? Je dis, ben non, ben je pense à la séance, je pense à ce que je dois faire dans un instant au travail, je dois rappeler à l'autre telle personne, je dois essayer. Elle dit, non, ramenez votre esprit ici. Faites en sorte toujours, ramenez votre esprit à l'endroit où vous êtes et vous aurez une sérénité. Et vos nerfs vont se délâcher, vous sentirez zen mieux. Il aime bien ces thèses feng shui et tout. Mais à des fois, il y a des choses pas mal aussi à prendre. Et là, je me suis dit que, subhanallah, dans la salah, il y a une tarbiya, il y a une éducation de l'âme. faire en sorte que la pensée ne soit pas ailleurs. Quand tu es dans la salat, tu dois te concentrer, faire en sorte que toutes ces pensées-là, tu les effaces et tu te ramènes dans le gestuel de la salat. Ta pensée est dans ton recours, dans ton qiyam, dans ton sijda, devant Allah. Et vraiment, la salat, ça apporte une sérénité aussi, parce que le corps et l'âme ne font plus qu'un. C'est ce qu'il me disait, il faut que le corps, il ne parle pas d'âme lui, hein, il faut que le corps et l'esprit soient ensemble. Et non pas que vous êtes là avec moi, et que votre esprit est ailleurs en train de penser à des problèmes. Parce que là, vous n'allez pas vous sentir bien, vos nerfs ne se délâcheront jamais. Dis donc, ramenez-moi tout ça, et là, vous allez voir l'effet que ça fait sur votre corps. Effectivement. Et dans la salat, vous êtes là devant Allah, et concentrez-vous que vous êtes devant Allah, et là, vous allez voir l'effet qu'il y a sur le corps, comment c'est bénéfique. Comment tawfiq illa billah, qu'Allah nous accepte. Si quelqu'un a l'occasion de venir à cet endroit, demain, il y a le cinquantenaire, inshallah, on aura une intervention sur le patrimoine, sur les biens, et sur les dons en islam. Demain, après la salat al-isha, jazakumullah khair. Donc, vendredi prochain, ce sera le 20 décembre, fête kaf. La fête kaf, c'est important ça. Très important. Subhanallah. On aurait parlé un peu de Nelson Mandela, mais je pense qu'on est un petit peu, tout le monde est un peu fatigué. Peut-être la semaine prochaine, on fera court. Hein? On va faire vendredi prochain, Inch'Allah. On devait avancer plus, on a fait que Waïda Souhouf Nishrat. J'aimerais qu'avant les vacances, faut qu'on prenne un peu de vacances aussi, tout le monde. Avant les vacances, on complète Waïda Shamsu Kouwirat. D'accord? Quitte à ce qu'on aille un petit peu plus vite sur certains signes par rapport aux astres et tout, mais au moins on peut compléter et puis Inch'Allah on peut avancer à la reprise. Jazakumullah khair. Qu'Allah nous t'offre de comprendre, mettre en pratique et propager à vos mères, à vos soeurs. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillah. رب العالمين جزاكم الله